Bonjour les amis, normalement le changement a dû être effectué, donc ça doit fonctionner maintenant. Normalement peut-être qu'avant vous aviez des problèmes où l'image saccadait un petit peu, le son fonctionnait bien, donc c'était pas votre problème de Wi-Fi, peut-être vous fouillez la maison pour savoir d'où venait le problème, ça venait de nous. Ça devrait être réglé maintenant, donc j'espère que tout ira bien, et s'il y a vraiment un souci, Eric qui est derrière à la technique m'arrêtera et me signalera ça, mais normalement ça devrait bien fonctionner. Et donc on est ensemble pour ouvrir la parole de Dieu ensemble dans 2 Thessaloniciens. On a terminé la semaine dernière notre série de prédications dans 1 Thessalonicien, la première lettre écrite à ces chrétiens de Thessalonique. Et on fait la suite logique maintenant, 2 Thessaloniciens, la deuxième lettre pour ces chrétiens de Thessalonique. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1. Et on va lire tout le chapitre 1 et méditer sur ces versets, donc les versets 1 jusqu'au verset 12. Donc 2 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 12. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir, et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel, et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre texte pour ce matin qu'on va méditer ensemble. Et en contraste frappant à ces versets qu'on vient de lire, j'aimerais vous lire d'autres paroles qui ne viennent pas du tout de la même source, pas du tout du même endroit, et je ne serais pas du tout en accord avec ces paroles-là. Mais une chanson assez populaire en France, en tout cas moi là où j'ai grandi, pas de ma génération, mais peut-être de votre génération, « On ira tous au paradis » de Michel Polnareff. Une chanson avec des paroles assez frappantes, assez choquantes volontairement, mais certaines paroles qui disent ceci. On ira tous au paradis, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. On ira tous au paradis, avec les saints et les assassins. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. Qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on ira tous au paradis. Des paroles qui sont chantées sur une mélodie rassurante et qui sont là pour rassurer. Non, ne t'en fais pas. Dieu n'existe pas et s'il existe, il n'est pas là pour juger. Sois tranquille. Fais ce que tu veux. Mais si on y réfléchit, c'est terrible de dire ça. On ira tous au paradis, même les assassins. Est-ce qu'on est vraiment prêt à dire ça aux familles de victimes d'assassinats, de viol, de terrorisme, de crimes atroces, à ceux qui ont été confrontés brusquement à l'injustice humaine? C'est pas si grave. Dieu acceptera tout le monde. Il est impuissant pour juger. Il est un peu comme un Père Noël. Il est gentil, il est sympa, il donne des cadeaux, mais il n'a aucune autorité. Non, le message de la Bible est bien plus rassurant et bien plus vrai. Et on le voit dans ces versets qu'on a lus. Non, on n'ira pas tous au paradis. Il y a un Dieu qui existe et qui règne en tant que juge sur le trône de l'univers. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose, parce que si c'était vous ou moi ou n'importe quel autre être humain qui régnait sur ce trône de l'univers pour juger, ce serait catastrophique. On voit déjà de manière assez évidente combien les tribunaux humains sont dépassés pour faire régner réellement la justice. Alors imaginez-vous toutes les injustices, publiques ou secrètes, de tous les êtres humains, de toute l'histoire de l'humanité. Quelle bonne nouvelle qu'il y ait un juge parfait, un juge bon, un juge qui est juste, qui règne sur ce trône. Et le texte de la Bible qu'on regarde ce matin nous montre que ce juge va revenir. Ce juge va revenir pour apporter un juste jugement. Et ces versets sont écrits justement pour rassurer des chrétiens qui souffrent. Et donc on va voir à partir de ces versets trois messages pour ces chrétiens qui souffrent, qui nous sont révélés, qui nous sont décrits dans ces versets. Alors je mentionne que le premier et le troisième point seront extrêmement courts et serviront plutôt d'introduction et de conclusion. Et le deuxième point, ce sera l'essentiel de là où on passera le temps ensemble dans notre méditation. Mais donc, trois messages pour ces chrétiens qui souffrent. Premièrement, soyez mûrs malgré la souffrance. Soyez mûrs malgré la souffrance. Tout comme 1 Thessaloniciens qu'on a déjà vu ensemble les semaines passées, il s'agit à nouveau de Paul, de Sylvain, de Timothée, qui écrivent à ces chrétiens de la ville de Thessalonique. Et la situation de ces chrétiens entre la première et la deuxième lettre n'a pas vraiment changé. Ils sont toujours en train de passer par la souffrance. Et quand il est question de souffrance ici, il ne s'agit pas de la souffrance générale de la vie, comme la maladie, une baisse de morale ou quelque chose comme ça. Non, en fait, ils sont persécutés pour leur foi. On voit ça avec la fin du verset 4, les persécutions que vous supportez. On voit au verset 6 également qu'il y a des gens qui les font souffrir en raison de leur foi. Ils souffrent parce qu'ils sont chrétiens. Donc il faudrait plutôt avoir en tête quelque chose de très proche que ce qu'on a vu il y a deux semaines en parlant de Porte Ouverte, cette organisation qui travaille pour les chrétiens persécutés dans le monde. Et on a vécu ensemble le dimanche de l'Église persécutée, on a parlé de chrétiens dans différents pays qui sont menacés à cause de leur foi, qui sont battus à cause de leur foi, à qui on arrache leurs biens, dont on détruit les maisons, qui sont menacés de mort, mis en prison, et tout ça simplement parce qu'ils sont chrétiens. C'est ce que vivent ces chrétiens, ces Thessaloniciens. Et c'est pour ça que c'est particulièrement encourageant ce qui se passe chez eux, parce que non seulement ils tiennent bon malgré la persécution, ils persévèrent dans l'épreuve, ils jettent pas l'éponge, on voit ça au verset 4, Paul écrit avec ses amis, « Nous sommes fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. » Mais non seulement ils persévèrent dans l'épreuve, mais aussi ils continuent malgré tout à grandir dans la vie chrétienne, à faire d'immenses progrès. Et on voit ça avec le verset 3, « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. » Il est écrit ici, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance. C'est tellement encourageant ce qui se passe chez ces chrétiens qu'ils ne peuvent pas ne pas remercier Dieu pour ce qu'ils voient, pour les progrès qu'ils voient, parce que c'est l'œuvre de Dieu en eux et c'est tellement beau à voir. On aurait pu penser que la persécution allait étouffer ces chrétiens, allait faire taire ces chrétiens, les ralentir dans leur vie chrétienne, que ça allait être un peu comme un seau d'eau qu'on jetterait sur du feu. Mais c'est exactement le contraire qu'il s'est passé. En fait, c'était plutôt comme jeter un seau d'huile sur le feu. La foi de ces chrétiens a fait de grands progrès. L'amour qu'ils se portent les uns pour les autres a foisonné. Et ceci, malgré la persécution. Et c'est ce qui est profondément marquant quand on entend des témoignages de nos frères et sœurs persécutés, comme on l'a fait il y a quelques semaines, de voir la foi qu'ils ont dans le Seigneur. Une foi qui est ferme, qui est solide, qui grandit. De voir l'amour qui se porte les uns pour les autres, qui grandit, qui est sincère, qui est réel. La persécution ne les arrête pas, bien au contraire. Ils sont mûrs malgré la souffrance. Il y a quelque temps, dans un autre pays, avant le confinement, avant la crise sanitaire qu'on vit, je discutais avec deux pasteurs. Il y en a un qui était chinois, et qui était pasteur en Chine d'une église souterraine. Et il y en a un autre qui était roumain et qui était pasteur en Roumanie. Et donc il y en avait un qui était en train de vivre la persécution de toutes sortes de manières en Chine. Et il y en avait un autre qui avait vécu la persécution. Et ils étaient là en train de discuter. Et à un moment donné, il y a le pasteur chinois qui a demandé à ce frère roumain, mais quand la persécution s'est arrêtée en Roumanie, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et j'étais frappé de sa réponse. Il a dit assez directement, le christianisme s'est refroidi. Le christianisme s'est refroidi. Les chrétiens ont arrêté de faire des progrès et c'est devenu beaucoup plus facile d'être chrétien. Et on a vu les gens être portés juste le nom de chrétien sans l'être réellement. Je pense que le verset 5 dans notre passage nous aide à comprendre pourquoi c'est le cas. Il est écrit, c'est une preuve, donc les persécutions, les difficultés, votre persévérance dans tout cela, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. On reviendra plus tard à l'idée du juste jugement ici, mais on voit ces chrétiens qui souffrent pour le royaume de Dieu, ils souffrent parce qu'ils sont chrétiens. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire ici quand il est dit que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu? Le sens ici, c'est pas que ces chrétiens doivent souffrir beaucoup ici-bas pour espérer gagner quelque chose de la part de Dieu, avoir une place au paradis plus tard. C'est pas que l'épreuve nous rend dignes, nous fait mériter un accès auprès de Dieu. Mais c'est un peu comme s'il y avait une grande tempête qui s'abat sur une forêt. S'il y a une grande tempête qui s'abat sur une forêt, quels sont les arbres qui vont tenir bon? Je ne suis pas un expert en forêt, mais j'imagine que c'est les arbres qui sont le plus enracinés, qui sont le plus solides, qui sont le plus forts, qui vont tenir bon, ceux qui ont les racines les plus profondes. Et l'arbre qui aura survécu à la tempête, ce n'est pas la tempête qui l'a rendu solide, qui a fait qu'il tenait. En fait, il tenait déjà avant, il était déjà enraciné avant. Mais la tempête a permis de montrer, ah oui, c'est un arbre solide, c'est un arbre qui était bien enraciné, qui tient la route. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Les Thessaloniciens sont déjà des chrétiens authentiques. On l'a vu dans les versets 3 et 4. Ils ont une foi remarquable, un amour qui progresse. Mais leur persévérance dans l'épreuve révèle publiquement que c'est le cas. Au grand jour, on pourrait dire. Et c'est une preuve qu'ils sont dignes du royaume. Et donc pour eux, c'est encourageant d'entendre Paul leur dire ça. Vous êtes dignes du royaume. Dans un sens, l'épreuve, c'est un peu comme un test qui permet de montrer la solidité de notre foi. La manière dont on réagit face à la souffrance, ça révèle si on est suffisamment mature dans notre foi, si on est suffisamment ancré. Et je pense que, avant d'aller plus loin, on a là une leçon pour chacun de nous. Est-ce que nos racines sont suffisamment profondes pour faire face à l'épreuve, pour faire face à la persécution si elle devait venir ici comme elle existe ailleurs? Est-ce qu'on prend notre croissance spirituelle au sérieux pour chercher à faire des progrès? C'est vrai qu'avec le confinement, il y a plein de choses qu'on faisait avant qu'on ne peut plus faire. Et du coup, on a vu toutes sortes de personnes se mettre à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Se mettre à faire du sport, apprendre à jouer un instrument, aller courir, parler une nouvelle langue. C'est super, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi profiter du confinement pour grandir dans notre foi, pour avoir des racines plus profondes, pour ressortir du confinement en étant plus musclé d'un point de vue spirituel? Soyez mûrs malgré la souffrance. C'est le premier message pour ces chrétiens qui souffrent. Mais le deuxième message, et là on va s'arrêter un peu plus, c'est le suivant. Soyez rassurés, Jésus revient. Dans les versets 6 à 10, soyez rassurés, Jésus revient. Le retour de Jésus, c'est un thème important de 1 et 2 Thessaloniciens, et Samuel a mentionné ça à nouveau. Et ici, dans ce passage, ces versets, le retour de Jésus est mentionné pour encourager ces chrétiens, pour les rassurer. Un peu en disant, Jésus va revenir et Dieu va juger de manière entièrement juste l'humanité. Vous qui avez cru en Jésus, vous allez connaître le repos éternel, mais les autres connaîtront le châtiment éternel. Et on voit effectivement dans ces versets que le retour de Jésus signifie le repos pour certains, mais la détresse pour d'autres, dans les versets 6 et 7. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. C'est le repos pour ces chrétiens, mais la souffrance pour ceux qui ont persécuté ces chrétiens. Et là, ça nous aide à voir que le retour de Jésus, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont prêts, mais c'est une mauvaise nouvelle, une nouvelle terrible pour ceux qui ne sont pas prêts. Et si c'est une bonne nouvelle pour ces chrétiens, le retour de Jésus, c'est pas parce qu'ils seraient plus méritants, pas comme on l'a dit, parce qu'ils auraient souffert un certain nombre de choses et qu'ils mériteraient donc quelque chose de la part de Dieu, mais c'est parce qu'ils ont cru. On voit ça avec la fin du verset 10. Jésus viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Ils ont cru dans le témoignage des apôtres. Ce témoignage qui parle de notre péché, qui nous condamne devant Dieu. Ce témoignage qui parle de Jésus qui est venu pour nous permettre d'échapper à cette condamnation. Sa vie sur cette terre, sa mort sur la croix, sa résurrection d'entre les morts. Ce témoignage qui parle de l'appel de Jésus à se repentir, à changer de vie, à changer de direction et à le suivre pour être en bonne relation avec Dieu, pour être en paix avec Dieu. Pour qu'en croyant en Jésus, nous n'ayons pas à craindre le jugement, mais qu'on puisse y être préparé. Ce retour de Jésus est une bonne nouvelle pour nous qui avons cru en Jésus. Pas parce que nous serions supérieurs à d'autres, plus méritants, mais parce que celui qui va revenir, c'est notre Sauveur. Celui qui va venir pour nous chercher, qui a donné sa vie sur la croix à notre place. Et donc Paul et Sylvain et Timothée écrivent ici pour rassurer ces chrétiens. Vous avez cru. Tout va aller bien pour vous. Vous êtes du bon côté. Vous allez hériter du royaume, comme on le voit au verset 5. Vous allez connaître le repos éternel, comme on le voit au verset 7. Quelle bonne nouvelle pour ces chrétiens qui souffrent de savoir cela. Le retour de Jésus, ce sera la fin des souffrances et le début de la gloire, le début du repos éternel avec Jésus pour toujours. Mais l'accent principal de ce texte, de ces versets, c'est sur l'autre aspect du retour de Jésus. Oui, il va venir comme sauveur pour certains, mais il va venir comme juge pour d'autres. On voit au verset 6 que Dieu va rendre la souffrance à ceux qui font souffrir ces chrétiens. Pas comme un père qui irait venger son enfant qui s'est fait malmener à l'école, mais parce que Dieu est juste, comme il est dit ici, parce que le mal doit être puni. Et c'est pour ça d'ailleurs que ceux dont il est question ici, qui sont concernés par ce jugement, par cet aspect terrible du retour de Jésus, c'est pas que certaines personnes seulement, mais c'est chacun de nous, par nature. On voit ça avec le verset 8, il est question de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui rejettent son existence, qui nient la réalité qu'il est là, la réalité qu'il existe alors qu'il s'est révélé à nous. Le problème n'est pas le manque de preuves par rapport à l'existence de Dieu, mais le problème c'est notre rejet de qui Dieu est. On ne veut pas que Dieu existe, on ne veut pas qu'il règne sur notre vie. Et c'est pour ça que dans ce même verset, il est question aussi de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, on peut reconnaître que Dieu existe, on peut reconnaître que Jésus est mort sur la croix, on peut reconnaître que nous sommes pécheurs d'une certaine manière et pourtant rester dans notre péché. Avoir une casquette chrétienne qu'on sort uniquement pour quelques occasions de temps en temps, mais refuser de soumettre notre vie au Créateur, refuser de réagir à l'appel de Jésus, de nous repentir et de le suivre. Et ça, chers amis, c'est chacun de nous, sous des formes différentes. Et c'est ce qui fait que nous sommes tous coupable. C'est ce qui fait que nous sommes tous concernés par ce jugement éternel qui arrive. Parce que Dieu est juste et qu'il ne doit pas laisser le mal impuni. S'il y a un jugement qui arrive, c'est parce qu'il y a des coupables. Si l'enfer existe, c'est parce que le péché existe. Et ces versets donnent une description assez précise de ce jugement à venir dans les versets 8 et 9. Jésus va revenir au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Il est question ici de ruine, de destruction, de souffrance, de détresse, un châtiment qu'il n'est même pas possible de décrire dans des mots humains. Et c'est pour ça que la manière dont la Bible parle de l'enfer est souvent très imagée. Un feu qui ne s'éteint pas, un lieu où il y a des pleurs et des grincements dedans, une fournaise de feu pour nous faire comprendre l'horreur et la grandeur de ce châtiment qui dépasse les mots humains. Et il est question de ruine éternelle. C'est pas juste comme si c'était un mauvais moment à passer, une réunion difficile, une conversation qu'on n'a pas envie d'avoir, un châtiment passager. Non, c'est un châtiment éternel. Et c'est ça qui rend la chose si sérieuse, si importante. C'est pas juste que c'est le pire châtiment qu'on puisse imaginer, mais c'est le pire châtiment qu'on puisse imaginer, et ça ne s'arrêtera jamais. C'est éternel. Et c'est pas juste comme le coronavirus, où on ne sait pas quand ça va se terminer. Quand sera la fin? Mais là, c'est qu'il n'y aura pas de fin. Un jugement éternel pour l'éternité, sans possibilité de revenir en arrière. Et on voit également dans ces versets que ce jugement sera loin de la présence bienfaisante de Dieu. Il est question d'une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Et je crois qu'on a ici une allusion à quelques versets dans Ésaïe qui parlent du jugement, dans Ésaïe 2. Je voulais juste un de ces versets. « On entrera dans les grottes des rochers et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. » La présence de Dieu comme juge est si terrifiante que les gens sont prêts à s'enfoncer dans la poussière et se cacher dans les creux des rochers pour espérer y échapper. Et je crois que c'est la même chose ici. Ce n'est pas que le jugement se passera loin de Dieu, que ceux qui seront jugés seront séparés de Dieu, mais c'est que justement, le jugement viendra de Dieu lui-même, de sa présence et de la splendeur de sa majesté. L'enfer, c'est justement la manifestation de la colère de Dieu, la colère d'un Dieu saint envers les êtres humains pécheurs. Et donc oui, ce jugement sera loin de la présence bienfaisante de Dieu, de sa présence qui console, de sa présence qui apaise. Mais ce que connaîtront ceux qui seront jugés, ce sera la présence de Dieu comme juge dans toute sa colère. Oui, c'est des questions difficiles et on est impuissant pour décrire avec beaucoup de précision ce dont il s'agit. Mais le peu de données dans un sens qui nous sont données nous montrent à quel point c'est sérieux, à quel point c'est réel et combien c'est un jugement qui arrive et que nous devons redouter. Et l'une des premières réactions qu'on a souvent en entendant parler de tout ça, c'est de penser « Mais ce n'est pas juste. C'est exagéré et c'est cruel de la part de Dieu. Est-ce que Dieu serait un être tyrannique qui se plairait à voir les gens souffrir ? » Mais si on y réfléchit, l'existence de l'enfer ou l'existence d'un jugement n'implique pas que Dieu est cruel, que Dieu serait cruel. Ce serait cruel uniquement si ceux qui sont jugés sont innocents. Si ceux qui sont en enfer n'ont rien fait pour mériter d'y être. Là, effectivement, on pourrait dire que c'est cruel, immérité et même sadique. Et donc c'est là qu'on réalise qu'on n'a pas de problème avec l'idée que Dieu juge les grands criminels. On est d'accord de dire que l'enfer doit exister pour Hitler, pour les tueurs en série, pour les pédophiles et pour toutes sortes d'autres personnes qui ont fait des crimes qui sont ouvertement atroces, condamnables, où tout le monde serait d'accord pour dire que ça ne doit pas exister. C'est une bonne chose qu'un jugement existe, que ces personnes payent pour ce qu'elles ont fait, n'est-ce pas ? Et donc on serait d'accord avec cette idée-là, mais ce qui nous gêne, c'est de dire que des gens comme vous et moi, on devrait y être. C'est de dire que des gens comme vous et moi, on devrait être jugés. On se dit, mais je ne mérite pas ça, moi. On voit nous-mêmes et on se voit nous-mêmes et on pense qu'on est de bonnes personnes, qui font juste quelques erreurs de temps en temps, des erreurs qui sont excusables. Mais la Bible dresse un autre tableau de qui nous sommes réellement. Peu importe l'apparence extérieure de nos vies, chacun de nous, on est coupable d'une rébellion à l'échelle cosmique envers Dieu lui-même. On est coupable d'avoir tourné le dos à Dieu. Chacun de nous, peu importe la manière dont les autres nous voient, peu importe à quoi ressemble notre vie extérieure, on a un cœur qui est corrompu, des pensées secrètes qui sont tellement loin de ce que la sainteté de Dieu exige. Et même si on trouve ça tolérable nous-mêmes, ces choses nous condamnent. Parce que la justice exige que le mal ne soit pas pris à la légère. Et Dieu est le juge parfait, pas corrompu, pas influencé comme nous, dans son jugement, qui a même de dire ce qui est bien et ce qui est mal, qui a même de juger. Et donc l'enfer est simplement la réaction normale appropriée de la sainteté de Dieu, de sa perfection, de sa justice, de sa toute-puissance, face au péché humain, face à la corruption, la rébellion de l'homme. C'est un peu au final comme une pièce qui aurait deux faces. Il y a le péché d'un côté et il y a le jugement de l'autre. Le théologien québécois Dominique Anger dit ceci, il écrit ceci dans un livre, « Si nous sommes embarrassés devant la notion biblique de l'enfer, c'est sans doute parce que nous avons tendance à relativiser la gravité du péché. » Et ces versets nous montrent effectivement qu'il est question de justice de Dieu. Ce n'est pas cruel qu'un juge condamne quelqu'un qui a enfreint la loi, c'est entièrement juste. Et c'est pareil pour nous tous qui avons enfreint la loi divine. Et l'erreur, ce serait de penser que nos bonnes œuvres pourraient changer cela, que notre bonne attitude, notre gentillesse pourrait influencer cela. Mais si la loi était enfreinte, ce n'est pas les bonnes œuvres, les bonnes actions qui vont faire changer d'avis le juge, et encore moins en ce qui concerne le juge divin. Le théologien Jonathan Edwards, il y a plusieurs siècles, il disait ceci: « Vos soins et votre prudence, tous vos artifices et votre propre justice ont, pour vous garder de l'enfer, l'influence qu'a une toile d'araignée pour retenir la chute d'un rocher. » Que va faire une toile d'araignée pour retenir la chute d'un rocher ? De manière imagée, c'est la même chose pour nos bonnes actions, pour le bien qu'on semblerait qui vient de nous-mêmes, pour satisfaire la colère de Dieu que l'on mérite. Rien de nos efforts pourrait changer la corruption de notre cœur. Rien pourrait enlever notre culpabilité face à Dieu. Et c'est ce qui nous amène précisément à la merveille que la Bible présente. La merveille que la Bible présente qui est que le Dieu qui doit juger et qui est totalement juste de le faire, le Dieu qui ne nous devait rien autre que sa colère qu'on a méritée, ce Dieu-là a envoyé son Fils Jésus dans ce monde pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que sur la croix, Jésus va prendre à notre place le jugement qu'on mérite, cette colère de Dieu, ce jugement que les mots humains ne peuvent pas décrire. C'est ce que Jésus subit à la croix, par amour, pas parce qu'il était coupable, il était innocent, mais pour sauver, pour donner à tous ceux qui croient en lui le pardon de leurs péchés et la perfection de sa propre vie. Vous voyez, la Bible ne se contente pas de donner une description très précise de l'enfer, du jugement que l'on mérite tous, mais elle affirme aussi avec force: fuyez la colère à venir. Courez à Jésus qui peut vous faire échapper à ce jugement que vous méritez, le seul qui peut vous délivrer. Arrêtez de vivre loin de Dieu, changez la trajectoire de votre vie. Le pardon est là, accessible pour tous ceux qui croient en Jésus. Non, on n'ira pas tous au paradis. Et donc la vie n'est pas un jeu. Et cette question est très sérieuse. Où allez-vous passer l'éternité ? Où allez-vous passer l'éternité ? Dans un sens, on peut tout oublier si on peut répondre à cette question. Tout oublier pour pouvoir répondre avec certitude à cette question. Est-ce que vous êtes en règle avec Dieu ? Est-ce que vos péchés sont pardonnés ? Est-ce que vous êtes prêt à affronter le juge de l'univers qui va revenir ? Est-ce que le retour de Jésus sera pour vous une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Soyez rassurés, Jésus revient. Oui, c'est le message pour ces chrétiens qui souffrent d'être rassurés. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts à faire face au retour de Jésus, le message de ce texte est plutôt « Soyez prêts, Jésus revient. Soyez prêts, Jésus revient. » Réglez cette question aujourd'hui. Et c'est seulement en se confiant désespérément en Jésus qu'on peut être rassuré de son retour, prêt pour son retour, parce qu'on aura le pardon des péchés et la paix avec Dieu. Alors on peut se demander maintenant, mais on a dit que c'était des chrétiens qui souffrent, qui étaient persécutés, et que Paul mentionnait tout ça pour les rassurer. Mais pourquoi mentionner tout ça à des chrétiens qui souffrent ? Comment est-ce que ça les rassure ? Bien, ces versets sont un encouragement pour des chrétiens persécutés, parce qu'ils montrent que la justice sera rendue. Ils montrent que Dieu ne les a pas oubliés. On vit dans un monde où ce n'est pas la justice qui règne, mais l'injustice. Le mal semble triompher, et tant de criminels semble échapper à la justice humaine, aux tribunaux humains. Ça fend vraiment le cœur d'entendre parler d'histoires d'abus sexuels dans le secret commis pendant des années, sans que les coupables soient arrêtés, soient jugés. C'est triste de voir des gens pleurer leurs proches qui sont victimes du terrorisme sans avoir un espoir que ces gens seront arrêtés un jour et jugés. Et c'est également terrible d'entendre parler de chrétiens persécutés dans le monde sans arrêt, sans que les auteurs de ces crimes soient condamnés. Mais les malfaiteurs n'échapperont pas au tribunal divin. Jésus reviendra et il va juger. J'ai reçu il y a quelques jours ou quelques semaines un mail de Porte Ouverte. Ils envoient des nouvelles régulièrement de ce qui se passe, de la situation des chrétiens persécutés, des sujets de prière. Et ils parlaient d'une attaque qui a eu lieu au Nord Cameroun, dans un village par Boko Haram, par 300 personnes de Boko Haram, avec des chrétiens qui ont été poignardés. Qui ont été tués, le village qui a été ravagé, juste terrible et triste de voir ces frères et sœurs qui ont perdu leurs proches, tout simplement parce qu'ils étaient chrétiens. et un équipier de Porte Ouverte rapportait en ces mots dans le mail, nous n'avions rien à offrir à ces chrétiens en deuil, si ce n'est une prière et un message de solidarité de la part du corps mondial du Christ. Humainement, c'était peut-être trop simple. En fait, c'était une chose très profonde d'être avec eux ce jour-là, alors que ces chrétiens faisaient face à l'un des moments les plus difficiles de leur nouvelle réalité, dire un dernier adieu à leurs proches. Mais il y a une autre chose qu'on peut offrir à ces chrétiens persécutés. Il y a une autre chose qu'on peut dire à ces chrétiens persécutés. Jésus va revenir. Il va juger. La justice sera rendue. Et non seulement ça, mais le retour de Jésus sera pour nous le début de la joie et du repos éternel. Et il ne s'agit pas ici de chercher une vengeance malsaine, parce que les chrétiens persécutés eux-mêmes sont les premiers exemples de personnes qui pardonnent à ceux qui les ont persécutés, qui prient pour ceux qui les persécutent, qui annoncent l'évangile. La réaction chrétienne face à l'enfer, ce n'est pas de satisfaire une mauvaise soif de vengeance, mais la bonne réaction, c'est d'être soulagé et rassuré que Dieu ne fait pas d'erreur. Et d'être motivé, profondément motivé, à annoncer le message de la bonne nouvelle avec d'autant plus de force, ce message qui sauve. Et on peut se demander maintenant, mais quel rapport pour nous, avec nous, chrétiens occidentaux, aujourd'hui ? Ben, je crois que ce passage devrait être un défi pour nous, et peut-être même un coup de pied dans le derrière. Parce que si ces chrétiens de Thessalonique souffrent, c'est parce qu'ils n'ont pas peur d'afficher leur couleur. Ils auraient pu se taire, ils auraient pu être discrets. Mais ils nous montrent que la foi authentique dérange, que la foi authentique va coûter. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Ou est-ce qu'on s'attache à un christianisme occidental qui n'a de chrétien que le nom ? Un christianisme où le disciple devient un spectateur ? Où le Dieu de l'univers devient un génie chargé de satisfaire mes désirs ? Où l'évangile est juste un message intéressant, plutôt que d'être le fondement de ma vie ? Si on choisit de vivre en disciple dans ce monde, tôt ou tard, ça va coûter. Pas physiquement, nécessairement, là où on vit aujourd'hui, mais moralement. Parler de la réalité de l'enfer ne va pas nous valoir des applaudissements. Au contraire, croire et affirmer ce que la Bible enseigne en matière d'éthique, ça peut nous faire perdre des amis. Avoir un regard de travers de la part de nos amis, de notre famille, être mis un peu de côté, être regardé bizarre, être rejeté. Et donc ces versets sont un encouragement pour nous également à tenir ferme, à ne pas lâcher, à ne pas arrondir les angles. Soyez rassurés, Jésus revient. Et enfin, dernièrement dans ce texte, en guise de conclusion, le troisième message pour ces chrétiens qui souffrent, soyez dépendants en attendant. Soyez dépendants en attendant. On revient maintenant à ces chrétiens persécutés qui souffrent et on se demande, mais pour eux et dans nos difficultés, pour nous, comment tenir ferme jusqu'au bout ? Bien, ces deux versets de notre passage nous montrent qu'on est profondément dépendant de Dieu, du début jusqu'à la fin. Et ces versets nous appellent à avoir un cœur qui est tourné vers Dieu, parce que c'est de lui que tout vient. On voit qu'on est dépendant de Dieu au commencement. C'est son appel dont il est question au verset 11. C'est lui qui nous a appelés, par sa grâce, à le suivre, à le connaître et à le servir. On voit qu'on est dépendant de Dieu maintenant. Il est question ici de prier pour que Dieu mène à son accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de foi. Le désir de faire le bien ne suffit pas, il faut qu'il soit mené à son accomplissement. C'est un peu comme les résolutions en début d'année. C'est rien tant que ce n'est pas mis en pratique, tant que ce n'est pas vécu pleinement. C'est un peu comme si Paul priait ici pour que les résolutions de ces chrétiens, ça ne soit pas juste une liste sur le frigo, mais que ce soit quelque chose qui vive de manière pratique et concrète dans leur vie. On a souvent des bonnes intentions, on sait ce qu'on devrait faire, ce qui serait bien de faire. Prendre des nouvelles de ce frère ou cette sœur, faire un don pour tel ou tel organisme, mettre en place une nouvelle habitude dans notre vie de prière, notre lecture régulière de la Bible. Demandons à Dieu de nous aider à aller jusqu'au bout de ça, de porter le désir de faire le bien à son accomplissement. On dépend de Dieu profondément pour ça. Et enfin, on voit dans ces versets qu'on est dépendant de Dieu pour l'achèvement. Paul prie que ces chrétiens soient trouvés dignes de l'appel de Dieu au dernier jour, pour qu'ils tiennent bon, malgré tout, jusqu'au retour de Jésus. On est dépendant de Dieu du début à la fin, et pas dépendant de Dieu d'une manière qui nous appelle à rester passifs, mais dépendant de Dieu d'une manière qui nous invite à être à genoux, dans la prière, pour que Dieu continue son œuvre en nous et dans la vie de nos frères et sœurs, et dépendant d'une manière qui nous appelle à nous lever du canapé et à nous mettre à l'action. Et quel sera le résultat de tout ça? On voit avec le verset 12, « Ainsi la gloire du nom de notre Seigneur Jésus sera révélée en vous et la vôtre en lui. » Jésus sera glorifié en nous alors qu'on vivra une vie chrétienne authentique, alors qu'on grandira comme les Thessaloniciens dans la foi, dans l'amour fraternel, dans la persévérance jusqu'au bout. Ce sera un peu comme un témoignage public de l'œuvre de Dieu en nous. Mais on voit qu'on sera aussi, nous aussi, glorifiés en Jésus. Quand il viendra au dernier jour, au jour de son retour, pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru, on aura la joie de vivre avec lui pour toujours, d'être héritier du royaume, glorifié en Jésus. Et d'où est-ce que tout ça vient? Quelle est la source de tout ça? Ce n'est pas de nos prouesses religieuses, ce n'est pas de nos mérites, ce n'est pas de nos aptitudes à être impressionnants aux yeux de Dieu, mais tout ça vient de la grâce de Dieu, comme on le voit avec la fin du verset 12, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Tout vient de sa grâce, son salut, son appel, la manière dont il nous fait persévérer jusqu'au bout. On est dépendant de Dieu et tout vient de sa grâce. Et je pense que c'est un bon endroit où terminer en priant, en réalisant que tout vient de la grâce de Dieu. Alors prions ensemble, chers amis. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, pour ces versets qui sont vrais, qui sont réels, qui viennent de toi, par lesquels tu veux nous enseigner sur la réalité de ce jugement à venir. On te remercie pour l'encouragement que c'est pour des chrétiens qui souffrent, mais on veut aussi prendre la réalité que c'est, que le retour de Jésus sera le retour du grand juge de l'univers. Aide-nous, notre Dieu, à être prêts face à cela. Et je te prie que pour que personne ne mette cette question de côté, ne soit absorbé par les choses de la vie, pour ignorer cette question-là. Où allons-nous passer l'éternité? On te remercie pour ta parole qui, en même temps que nous montrer notre condamnation, nous montrer l'état de notre rébellion, nous montre aussi la grandeur de ta grâce et du salut que tu nous as donné en Jésus. On te remercie parce que tout vient de ta grâce. On te remercie pour la vie, la mort, la résurrection de Jésus. On te remercie parce qu'on est en bonne relation avec toi, grâce à l'œuvre de Christ à la croix. On te remercie parce qu'on n'a pas à craindre ce jugement à venir si on a cru en Jésus. Mais on peut y faire face avec assurance, avec confiance, avec reconnaissance, en sachant que Jésus qui va revenir, c'est notre Sauveur qui a donné sa vie à notre place. Alors gloire à toi pour ta grâce, pour ta bonté envers nous. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.